Je vais me présenter rapidement, oui. Mais juste en préambule, je pense que la tâche à laquelle je suis convié là va parfaitement illustrer le fait que le travail est une épreuve. Et c'est une entrée en plus qui me convient assez bien parce que c'est par là que j'essaie d'entrer dans le travail enseignant. Donc je suis Frédéric Soja. J'appartiens à une équipe dont l'intitulé est ERGAP, ergonomie de l'activité des professionnels de l'éducation, qui est elle-même inscrite dans un laboratoire dont l'intitulé, lui, est UMR-ADEF, donc pour unité mixte de recherche, apprentissage, didactique, évaluation, formation. Donc c'est un labo qui a une caractéristique, il y a quelques UMR en France, qui a pour caractéristique de réunir l'UFM d'Aix-Marseille, l'INRP et l'Université de Provence. Voilà, donc c'est une originalité intéressante parce que ça permet justement de croiser des institutions différentes et c'est un labo qui compte une centaine de chercheurs et qui est structuré autour de cinq équipes dont fait partie, dont l'une d'entre elles est l'équipe ERGAP, ergonomie de l'activité des professionnels de l'éducation. Alors, quelques mots quand même pour préciser un petit peu comment je vais procéder et aussi pour que vous compreniez d'où je parle. Quand je disais que j'entre dans le travail par la notion d'épreuve, je vais essayer de l'expliciter rapidement. Les travaux que je conduis sont à la charnière, à l'articulation entre des problématiques qui sont communes à l'ensemble des chercheurs en sciences de l'éducation, mais aussi des problématiques qui renvoient à d'autres disciplines, et notamment la psychologie du travail et l'ergonomie. Alors c'est une articulation qui ne va pas de soi, hein, parce que je pense que le regain d'intérêt pour l'enseignement comme travail est assez récent. Hein. Je pense que jusqu'à une date assez récente, on n'a probablement pas tiré toutes les conséquences du fait que enseigner c'est un travail. Et qu'à ce titre-là, sans pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain et faire passer à la trappe toutes les recherches qui ont été conduites, notamment en didactique, mais pas seulement, parce que dans les sciences de l'éducation, il y a bien d'autres références disciplinaires, histoire de l'éducation, sociologie de l'éducation, essayer de faire valoir l'intérêt qu'il y a à tirer toutes les conséquences du fait qu'enseigner est un travail. Et que ce travail, comme toute activité de travail, est une épreuve. Alors, épreuve... Françoise a apporté des éléments de réponse à partir des travaux de Luc Boltanski. En ce qui me concerne, pour compléter un petit peu, hein, et puis pour être plus en phase avec mes propres références, je pense que c'est très intéressant de rapprocher cette notion d'épreuve de la façon dont un philosophe, Georges Canguilhem, qui est une référence importante dans mon travail, j'y reviendrai, donc, il a travaillé sur les questions des normes, de la normativité et de la normalisation. La façon dont il considérait que la maladie, justement, était l'épreuve de la santé. Et vous voyez que dans cette conception-là, j'y reviendrai, et c'est tout particulièrement éclairant par rapport à l'activité des enseignants débutants, on a un point de départ de réflexion sur le travail qui n'est pas tout à fait le même que celui de Christophe Dejour, des travaux de Christophe Dejour qu'évoquait Françoise, parce qu'il y a quand même l'idée, je force un peu le trait, mais je pense que les psychodynamiciens du travail seraient d'accord, il y a quand même l'idée dans les travaux de la psychodynamique du travail, donc portée par Christophe Dejour, que ce qui est premier au travail, c'est la souffrance. Dans la façon dont dans l'équipe, et dont moi particulièrement dans l'équipe, j'essaie de regarder l'activité de travail des enseignants, je me retrouve davantage dans cette idée d'épreuve, parce que l'épreuve, comme le montre Canguilhem, elle est ambivalente, quoi. Elle a une double destinée possible. Dans l'épreuve, on peut effectivement en faire une maladie et en sortir affaibli, et donc souffrir. Mais, comme le dit Canguilhem encore, se confronter à une épreuve, c'est aussi rencontrer l'occasion de faire ses preuves. Donc de sortir cette fois grandi, régénéré de l'épreuve. Vous voyez au passage le lien, je vais me situer pas mal en continuité avec ce qu'a développé Françoise, bien que je reviendrai sur l'ensemble des interventions, le lien entre organisation et désorganisation à travers cette idée d'épreuve. Donc c'est une façon d'aborder le travail qui ne pose pas au principe même de l'activité de travail de l'enseignant le fait que enseigner, travailler en tant qu'enseignant, c'est souffrir. Chez Dejour, il y a cette idée que la souffrance est première et que tous les efforts de l'opérateur au travail, c'est de dépasser cette souffrance pour la convertir en plaisir. Bon, je passe, je vais pas développer, je suis pas là pour ça, la théorie de la psychodynamique du travail. Mais il y a quand même cette idée que, et que notamment, cette possibilité de convertir la souffrance en plaisir passe chez Christophe de Jour par des jugements de reconnaissance qui sont en particulier portés par autrui. Donc à la fois l'institution, comment l'institution reconnaît ou pas le travail de ses enseignants, à travers notamment les actes d'inspection, mais comment les pairs aussi reconnaissent le travail de l'enseignant à travers ce que De Jour appelle des jugements de beauté, qui sont à la fois des jugements qui valident la conformité du travail d'un professionnel donné par rapport aux règles du métier. Donc c'est l'idée que... c'est un travail qui est respectueux des règles du métier, donc qui fait que celui qui le met en œuvre est bien du métier et est reconnu par le métier. Mais aussi, dans ces jugements de beauté, il y a une dimension d'originalité, c'est-à-dire le fait qu'il y a une singularité dans la façon de réaliser son travail. On a cette double dimension qui, à mon avis, est tout à fait intéressante, y compris quand on réfléchit à comment fonctionne, par quel canot fonctionne aujourd'hui la reconnaissance du travail enseignant. Se rend compte que bien souvent, un certain nombre de ces canaux sont bloqués. Ce qui d'ailleurs engendre souffrance, désinvestissement, etc. Donc cette idée que, à la fois, être reconnu par ses pairs, il y a jugement de beauté, c'est du beau travail. Et quand on formule ce type de jugement, c'est du beau travail, on se réfère à des règles de métier qui définissent les règles de l'art, en quelque sorte. Mais aussi, c'est un travail qui te ressemble. C'est un travail qui porte ta signature et qui manifeste une singularité, ce que Yves Clos appellerait un style. Voilà, mais justement, par rapport à cette reconnaissance-là, et là c'est un premier point de réaction à notamment à ce qu'a développé Richard Witorski ce matin, aujourd'hui on se rend compte dans les situations de travail que la reconnaissance, elle passe au moins autant par le regard de l'autre sur son travail, et c'est un aspect tout à fait important de la reconnaissance, que par la possibilité ou non de se reconnaître dans ce qu'on fait. Bon, je ne sais pas si vous voyez la distinction que j'opère là. Il y a d'un côté, effectivement, Richard Witorski parlait ce matin de la dimension de la compétence comme relevant d'un acte social d'attribution de compétences. Je pense que si on pousse trop loin cette thèse-là, on risque d'oublier que la compétence, un de ses ressorts, c'est aussi l'effectivité, l'efficacité, la possibilité d'agir sur le réel. Autrement dit, il y a des travaux dans le domaine large des sciences de l'éducation et plus largement en psychologie du travail, ceux de Marcel Strubans par exemple, qui sont allés très loin là-dessus en réduisant la compétence à un processus d'attribution sociale de compétences. Et en oubliant que la compétence, alors il y a eu des réactions qui ne se sont pas fait attendre ou qui montrent que la compétence c'est aussi la capacité à maîtriser des situations professionnelles et à le faire de manière efficace. Donc vous voyez comment il faut pouvoir tenir ces deux bouts, et c'est une des caractéristiques des travaux qu'on fait que d'essayer de tenir cette entrée à la fois par le social et le rapport au collectif, par l'individu et par la subjectivité, mais aussi par l'efficacité de l'activité de travail. Donc là, ça permet peut-être de mieux comprendre aussi comment je vais essayer de réagir à partir à la fois de ce qui a été dit, mais aussi de vos réactions aux différentes contributions à ces deux journées. Pour faire vite, il y a aujourd'hui dans les travaux qui portent sur les études qui portent sur le travail enseignant, il y a des collègues qui s'intéressent aux dimensions plus objectives de ce travail, avec des analyses très fines sur, par exemple, depuis Vergniaud, ouais, là je reviens pas sur tout ce qu'a développé Pierre Pastré, sur les schèmes, sur les organisateurs, etc., de ce que j'appelle moi les occupations de travail de l'enseignant, à quoi il s'occupe avec ses élèves et comment il peut s'occuper de faire ce qu'il a à faire avec ses élèves. Il y a d'autres travaux qui mettent en avant l'idée que, au-delà des occupations auxquelles se livre l'enseignant avec ses élèves, il y a des préoccupations à prendre en compte. Certains collègues en psychologie du travail parlent même de préoccupation, hein, cette idée que, avant de mettre les pieds dans la classe et de se livrer aux occupations auxquelles on est censé se livrer, on est bien souvent préoccupé, plus ou moins saturé de préoccupations qui vont jouer un rôle de filtre dans le travail qu'on va pouvoir conduire, mais qui quelquefois basculent complètement du côté de ces préoccupations en ne se préoccupant plus, c'est le cas de le dire, des occupations. Donc je pense là à des travaux par ailleurs tout à fait intéressants conduits sur la souffrance au travail des enseignants par Claudine Blanchard-Laville par exemple, hein, où là on voit bien que le centre de gravité c'est vraiment la subjectivité au travail, alors que de l'autre côté, on était sur les dimensions objectives, c'est-à-dire les opérations de travail et ceux qui les organisent. Et des travaux, alors, sur lesquels, un peu sur le fil du rasoir, sur lesquels j'essaie de me situer, ou on essaie collectivement de se situer, parce qu'on est quand même un certain nombre à essayer d'adopter cette troisième voie. Je pense que l'approche qu'a proposée Françoise, je ne sais pas si elle en sera d'accord, mais je la situerai volontiers sur cette troisième voie, qui essaie de travailler sur cette tension entre préoccupation et occupation, c'est-à-dire entre dimension objective, dimension subjective, via le social, via le rapport au collectif, etc. Donc c'était pour préciser un petit peu le fait que justement je ne suis pas didacticien professionnel, hein, je travaille plutôt dans la mouvance à la fois de la tradition de l'ergonomie de l'activité, en essayant de promouvoir une ergonomie de l'activité enseignante, je reviendrai peut-être sur ce que je mets derrière activité, et dans la mouvance d'une clinique de l'activité qui est portée aujourd'hui en particulier par Yves Clos, à l'égard de laquelle on, je finirai là-dessus, mais à l'égard de laquelle on essaie de d'éviter toute orthodoxie ou toute révérence. Hein. Donc on a dans l'équipe, il y a des aspects sur lesquels on se retrouve complètement sur l'approche, d'autres aspects où il nous semble qu'il est nécessaire d'aller plus loin, et notamment d'aller plus loin dès lors qu'on s'intéresse à l'activité enseignante. Parce que les travaux qui ont été conduits jusqu'à présent, même s'ils se diversifient aujourd'hui et portent sur les services, ont quand même beaucoup porté sur un travail sur la matière, et pas sur un travail sur l'humain, comme l'a dit Pierre Pastré, un travail qui consiste à agir avec et sur autrui. Et cette coactivité-là, elle a bien sûr elle marque la spécificité du travail enseignant, qu'on retrouve dans d'autres activités de service, mais dans le cas de l'enseignant, il s'agit d'une coactivité qui est systématiquement référée, ou qui devrait l'être, à des enjeux de savoir. Construction, apprentissage, compétences, etc. Voilà, donc c'était pour préciser un petit peu d'où je parlais. Et à partir de là, ce que je vous propose, alors je vais essayer de tenir le temps, j'ai une demi-heure, c'est ça ?
Non, pas plus.
Il faut laisser le temps à la discussion quand même. Bon, peut-être.
Une demi-heure.
En comptant le quart d'heure que j'ai pris jusqu'à présent, bien sûr. Je vais, dans un premier temps, essayer de revenir de manière un peu chronologique. Alors, la synthèse que je vais faire, bien entendu, elle est partielle et partiale. Partielle parce que ça a été des journées très denses et j'ai essayé d'assister aux deux ateliers sur trois. Il y en a un auquel j'ai pas pu assister, mais je connais un petit peu le travail de Dominique. Et puis parce que à la fois les apports des intervenants, mais aussi vos réactions, ont été d'une densité assez forte. Donc bien entendu, online, c'est difficile d'en faire une synthèse. Mais je ne sais pas s'il existe d'ailleurs une synthèse qui serait exhaustive. Bon, en tout cas, la mienne sera partielle et partiale parce que je la regarde aussi avec ma paire de lunettes. Mais elle va consister à réagir et à prolonger un petit peu, alimenter la discussion ouverte à partir des différentes présentations et les questions aussi que vous-même avez posées. Donc, dans un premier temps, je vais revenir peut-être successivement, de manière un peu chronologique, sur les différents apports, en pointant une ou deux questions que je me pose par rapport à ces apports-là. Et dans une deuxième partie de l'exposé, je vais reprendre ça de manière un peu plus synthétique, là, en essayant de réorganiser autour, justement, des organisateurs ou des organisateurs du travail enseignant, et surtout en essayant de prendre un peu de temps pour esquisser les conséquences que ça a en matière de formation des enseignants. Alors, première entorse à ce que je viens d'annoncer, mais on passe son temps à faire des entorses au prescrit dans l'activité de travail, c'est que justement, je vais procéder chronologiquement, mais je vais quand même néanmoins démarrer par la dernière intervention, celle de Françoise Lantome, parce qu'elle va me permettre de poser un cadre à l'intérieur duquel je vais situer ensuite les autres communications. Je pense que ce dans quoi je me retrouve par rapport à ce qu'a développé Françoise Lantome, c'est d'abord cette idée que on ne peut pas penser l'activité sans la resituer dans un processus d'action et de décision depuis les prescriptions jusqu'à ce que chaque enseignant fait des prescriptions dans sa classe. Je vais revenir un petit peu, expliciter ce que j'entends par processus d'action et de décision. Donc depuis les prescriptions jusqu'à ce que chaque enseignant en fait dans sa classe, j'allais dire via la façon dont les collectifs collectif à géométrie variable, ça peut être un collectif de travail élargi dans un établissement, ça peut être l'équipe des maîtres à l'école primaire, ça peut être une équipe disciplinaire, ça peut être donc des collectifs de dimension et à géométrie variable. La façon dont ces collectifs essaient de digérer les prescriptions. Au passage, ça me permet de pointer ce qui pour moi est un organisateur décisif du travail enseignant, c'est précisément le rôle que jouent les collectifs. Mais vous voyez qu'à l'inverse, ça peut être complètement un désorganisateur. Aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, les défaillances du collectif, et quand je parle de collectif, je ne parle pas de travail en équipe, là je partage complètement le point de vue de Françoise, j'irai même jusqu'à cultiver ce paradoxe qui consiste à dire que l'injonction au travail en équipe est une façon d'affaiblir les collectifs de travail. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais en tout cas, je vous le laisse pour que vous le ruminiez. Je le développe pas pour l'instant, parce que sinon ça va me faire dériver. Ce que j'entends par collectif, c'est le fait que entre les prescriptions qui fixent ce qu'on demande aux enseignants, ce qu'on a à faire, et puis ce que chacun fait dans son activité, ou ce qu'il ne fait pas d'ailleurs, et là aussi par rapport à d'autres présentations, ce matin Richard disait l'activité c'est ce que font les gens, c'est tout autant ce qu'ils ne font pas et qu'ils n'arrivent pas à faire. Et je pense que là aussi c'est très important d'insister, comme le fait là Yves Clos depuis plusieurs années, sur ce qu'il appelle l'activité contrariée, empêchée, empoisonnée, intoxiquée, parce qu'elle pèse de tout son poids dans l'activité réalisée. On pourrait dire que là... à l'intérieur de l'activité, probablement que cette activité contrariée peut devenir un désorganisateur de l'activité, si on n'arrive pas à la convertir en organisateur. Donc, entre les prescriptions, ce qu'on demande aux gens, et ce que chacun en fait de manière plus ou moins singulière dans son travail, il existe ou non un intercalaire social qui est joué, dont le rôle est dévolu à ces collectifs, qui fonctionne un peu comme une instance de digestion des prescriptions, c'est-à-dire qui met à la disposition de chacun des façons de penser, des façons de faire, qui vont se présenter, s'offrir comme des ressources pour faire ce qui est à faire. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais vous voyez bien que dès lors qu'il y a défaillance de ces prescriptions, la conséquence, c'est que chacun est renvoyé à lui-même, contraint d'arbitrer tout seul dans son coin. Et là, je rejoins ce que disait Françoise, quand il y a défaillance du métier, c'est-à-dire le métier au sens de référence partagée en termes de façon de penser, de façon d'agir, eh bien, on se retrouve tout seul à bricoler dans son coin en se demandant si ce qu'on fait, c'est bien ce qu'il aurait fallu faire, si c'est ce que fait le collègue qui est dans la classe d'à côté, si la décision que j'ai prise, elle est juste ou injuste à l'égard des élèves, etc. Dans l'impossibilité de trancher, parce qu'il n'y a plus de répondant collectif. J'y reviendrai, mais vous voyez à quel point pour moi cette question de l'intercalaire social, de la place du collectif, est à la fois un organisateur fort ou un désorganisateur du travail enseignant, mais à la fois un enjeu important en termes de formation et de développement de l'activité. Probablement que, et là je rejoins ce que disait Richard Witorski cette fois, la compétence c'est pas qu'une propriété individuelle, c'est pas une propriété de l'individu, elle est portée, elle est un produit de l'activité collective. Et moins on est porté par cette activité collective, plus on est privé de références collectives, plus on est renvoyé à soi-même pour essayer de faire ce qu'il y a à faire. Avec des coûts quelquefois démesurés, parce qu'on passe son temps à se demander si ce qu'on a fait, c'est bien ce qu'il aurait fallu faire. Voilà, donc ça c'est un premier aspect dans lequel je me retrouve par rapport à ce qu'a décrit Françoise. Cette idée que, et du coup c'est un élément qui élargit peut-être cette notion d'organisateur, on voit bien comment en didactique professionnelle, et notamment chez Pierre Pastré, l'organisateur qui est de nature conceptuelle, le concept pragmatique, peut-être sous-estime, à discuter, mais sous-estime cette dimension du collectif, comme organisateur de l'activité. Alors je prends tout de suite un exemple pour jouer mon rôle de réactant par rapport aux deux journées. Il me semble que pour ceux qui ont assisté à l'atelier d'Isabelle Vinatier, ou à sa présentation de ce matin, on voit bien en quoi le collectif est un instrument de reprise en main de l'activité individuelle. Elle l'a montré dans la façon dont elle fait vivre l'analyse de pratique avec un collectif d'enseignants. Elle a montré aussi dans son atelier comment, face au désarroi dans lequel se trouvent les professionnels, comment le collectif offre du répondant pour restaurer, redynamiser le pouvoir d'agir. Donc pour moi, sous bénéfice d'inventaire, et là j'aurais aimé pouvoir en discuter, notamment avec Pierre, pour moi, je mettrais volontiers dans cette catégorie des organisateurs ce niveau du collectif, cette dimension collective, en précisant que par collectif, j'entends deux choses, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas peut-être explicité. C'est à la fois le collectif vivant, les interactions qu'on a avec les pairs par rapport au travail, à propos du travail, mais c'est aussi ce que j'appellerais le collectif sédimenté, l'histoire du collectif, l'histoire du métier. Et donc y compris le rapport à la tradition. Je pense que là aussi, c'est un maillon faible de la formation, et notamment de la façon dont se sont édifiés les IUFM, où en gros, pour faire vite au risque de caricaturer, et pour tordre le bâton un peu dans l'autre sens, le discours qui a porté quand même la création des IUFM, c'est un discours du type « les anciens, ils n'ont rien compris au métier, on compte sur vous les néos qui allaient être formés dans une logique de professionnalisation adossée à l'université, pour leur expliquer ce que c'est que cette profession qui n'est qu'une semi-profession, comme disent certains sociologues des professions. Et on voit ce que ça donne quand les néos se retrouvent dans les situations très difficiles où ils se retrouvent en France, c'est-à-dire dans des conditions d'exercice très dégradées, où ils s'en prennent plein la gueule, et où ça produit souvent des retours en arrière gigantesques chez eux, avec un effet complètement contre-productif, puisqu'ils vont essayer, en désespoir de cause, de puiser dans les aspects les plus traditionnels, les plus obsolètes du métier. Alors, un exemple très, très, très précis, hein, un T1 avec qui j'ai eu l'occasion de travailler l'année dernière, confronté à une classe de CP-CE1 en zone éducation prioritaire dans une école très difficile des quartiers nord de Marseille, qui me dit franchement, je savais plus où donner la tête, je savais plus comment m'y prendre pour organiser le travail en lecture, et j'ai trouvé Beaucher à Carrefour. Je l'ai pris, et au moins, j'ai réussi à mettre en place des situations qui tenaient la route dans la classe. Donc vous voyez comment cette question du rapport à la tradition, je pense qu'il faut la prendre très au sérieux. Il y a deux façons de se situer par rapport à la tradition. Soit on considère qu'effectivement professionnaliser le métier, le travail des enseignants, l'activité, je ne reviens pas sur les distinctions qu'a opéré Richard, c'est tourner le dos à la tradition, au motif que ce n'était qu'une semi-profession. Soit, au contraire, et c'est la façon dont j'essaie de regarder moi les choses, soit on se pose la question de qu'est-ce qui, dans la tradition, dans l'histoire du métier, permet d'affronter des questions nouvelles qui sont aujourd'hui posées aux enseignants et à l'institution. Questions nouvelles, parce que je ne vais pas développer, les publics scolaires ont changé, parce que les prescriptions qui sont adressées à l'école se sont très largement, François l'a évoqué aussi, à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif, modifié. On demande de plus en plus de choses à l'école, mais aussi des choses de plus en plus difficiles. Et je pense que, et c'est un point là aussi sur lequel j'aurais aimé discuter avec Isabelle Vinatier, dans son travail, elle dit « je laisse de côté la question des prescriptions ». Or, il me semble très difficile de tenir cette position, en tout cas pour un ergonome, parce que si on se met d'accord, on n'est pas obligé de se mettre d'accord, mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec ce modèle-là, qui consiste à dire qu'il y a un processus d'action et de décision depuis les prescriptions jusqu'à l'activité, alors on ne peut pas comprendre l'activité que déploie un professionnel si on ne s'intéresse pas à ce qu'on lui demande de faire. Donc là, il me semble qu'il y a un point de discussion aussi qui me paraît tout à fait important, cette idée que les prescriptions sont en quelque sorte consubstantielles de l'activité. Autrement dit, et là je partage aussi ce que disait Françoise, les enseignants ne connaissent pas sur le bout des doigts les prescriptions. Néanmoins, ils s'efforcent de faire ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire qu'elles jouent un rôle. Alors, pour le coup, nouvel organisateur, pour moi, les prescriptions sont aussi un organisateur, peut-être pas de même nature, du travail enseignant. Organisateur qui peut être, là aussi, Françoise l'a montré, un désorganisateur complet du travail de l'enseignant. Donc, toujours cette double face, organisateur, désorganisateur. Mais je pense que, et là, l'ergonomie, quand même, peut nous apprendre un certain nombre de choses. On est en permanence au travail dans une tension entre ce qu'on demande aux gens, d'un côté, et c'est quand même ce qui est attendu en matière d'efficacité, et puis ce que ça demande aux mêmes opérateurs de faire ce qu'on leur demande de faire. Cette tension entre les prescriptions, plus ou moins bien fichues, hein, plus ou moins contraignantes. Ici, j'ai pas le temps de développer, mais il y a des caractéristiques fortes des prescriptions en matière de travail enseignant, qui se traduisent, pour faire vite, par ce que Pierre a appelé des tâches discrétionnaires, qui du coup, petit point de discussion avec Françoise, si on reprend les travaux là de Bruno Maggi sur cette question, il s'agit moins d'un accroissement de l'autonomie que d'un accroissement de la discrétion. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est peut-être ce qu'avait en vue Françoise quand elle disait autonomie prescrite et empêchée, ou comme dit Claude, on donne des responsabilités aux gens sans réelle responsabilité. C'est-à-dire cette idée qu'il y a quand même des objectifs très fortement contraignants, en plus avec une obligation de résultat aujourd'hui, mais par rapport auxquels on laisse à la charge des opérateurs le souci de trouver comment faire. Et là, c'est une caractéristique assez forte des prescriptions en matière de travail enseignant, mais qu'on retrouve aussi plus largement dans les activités de service. Néanmoins, je pense qu'on ne peut pas ne pas imaginer que ce fonctionnement-là des prescriptions n'a pas d'incidence sur l'activité. Il pèse très fortement sur l'activité. Parce que du coup, il faut inventer les manières de faire. Alors que dans d'autres domaines professionnels, les ergonomes, ont l'habitude de dire les prescriptions, c'est à la fois du à faire, c'est-à-dire des objectifs, mais aussi du pour faire, des modes opératoires et des ressources opératoires. Et justement, Françoise pointait à juste titre le fait que aujourd'hui, on est en difficulté pour trouver où sont les ressources opératoires qui sont censées permettre ce qui est à faire. Alors on a tout fait de reporter la responsabilité sur les enseignants en disant c'est de la résistance au changement, ils sont incompétents, etc. En réalité, on serait bien inspiré d'interroger les prescriptions. Donc vous voyez le lien entre prescription et activité. Et ce qui vient compliquer les choses, c'est qu'en plus, il y a des relais multiples de ces prescriptions, puisque entre la prescription, on pourrait dire officielle, celle qui est portée par les textes officiels, par les programmes, etc., et puis les prescriptions locales, telles qu'elles sont redéfinies par les corps d'inspection, par exemple. C'est très frappant de voir quand on discute avec les collègues dans le premier degré, un collègue me disait récemment, j'ai changé de circonscription, j'ai presque l'impression de changer de métier. Et pas seulement parce qu'il change de public, mais aussi parce qu'il y a une politique de circonscription qui est radicalement différente de celle qui était promue par l'IEN avec lequel il avait travaillé jusqu'à présent. Donc vous voyez comment ça complique la tâche, ça, hein, quand on a des prescriptions qui en plus font l'objet de relais, mais de relais quelquefois discordants. Et là on retrouve l'activité des débutants. Une des caractéristiques des débutants, c'est qu'ils ne savent plus sur quel pied danser. Entre la prescription officielle, la prescription portée par l'institut de formation, mais qui, elle, est plurielle, parce qu'il y a celle des formateurs, et peut-être qu'il faudrait distinguer entre les formateurs de terrain et les formateurs universitaires, mais il y a aussi celle des conseillers pédagogiques, des IMF qui viennent les voir, etc. Et il y a souvent de très fortes discordances entre ces prescriptions-là, et là aussi, on laisse à la charge des PE2 ou des PCL2, nous on dit PCL2, vous dites sans doute PLC2, pour ce qui est... on laisse à la charge le souci de trouver comment articuler ces différentes prescriptions discordantes. Et ça aussi, ça pèse très fortement sur leur activité. Ils disent souvent, mais finalement, qui a raison dans cette affaire-là? Quand je montre, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir en stage, qu'est-ce que je dois montrer? Et oui, que ça renvoie à des questions de métier aussi. Le métier devrait pouvoir indiquer ce qui est juste ou injuste, ce qui est efficace ou non, ce qui est vrai ou qui est faux, etc. S'il n'y a pas de répondant collectif là-dessus, chacun passe son temps de manière un peu torturante à se poser ces questions-là. Est-ce que ce que je fais, c'est bien ce qu'il fallait faire? Mais ce que je fais, c'est ce que m'a dit de faire l'IMF, mais ça me conduit à tourner le dos à ce que m'a dit de faire le formateur à l'UFM. Et comment je règle, comment j'ajuste mon activité par rapport à ces discordances-là? Voilà, donc je vais maintenant essayer très rapidement, j'ai pointé une ou deux questions sur chacune des interventions, et ensuite reprendre, je vais essayer de tenir le temps, reprendre de manière synthétique mon propos. Alors, sur l'intervention de Pierre Pastré, j'ai pointé notamment une question. Cette idée que la connaissance est ce qui permet de guider l'action, hein, la connaissance comme permettant d'orienter l'action et de formuler des diagnostics par rapport aux situations professionnelles, m'a conduit à me poser une question. Est-ce que ça signifie que la connaissance est à la source de l'action? Et encore une fois, y compris lorsqu'on met derrière connaissance ce que met Pierre, c'est-à-dire pas seulement des concepts, la conceptualisation de l'action, etc. Est-ce que c'est ça qui est à la source de l'action? Vous aurez compris que ma réponse serait plutôt non à partir de mes propres travaux. Pour moi, la connaissance est une ressource décisive pour l'action, mais l'activité, le travail que je conduis notamment sur l'activité des débutants ou sur l'activité des enseignants exerçant en milieu difficile, alors c'est vrai, comme le disait Anne-Marie, qu'il y a probablement un double effet de loupe là, mais peut-être que cet effet de loupe, il est intéressant aussi, parce qu'il révèle peut-être des dimensions un peu cachées du travail enseignant ordinaire, je dirais, me conduit à penser que ce qui est à la source de l'action et de son développement, c'est plutôt les tensions qu'on est contraint de gérer dans son activité d'enseignant entre concept et affect. Et notamment, le rôle des émotions de l'insatisfaction comme moteur du développement de la compétence professionnelle. Bon, j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps, je montrerai une petite diapo là-dessus. Mais là, il y a un point de discussion, à mon avis, tout à fait important. On voit bien comment la filiation piagétienne, qui est celle de la didactique professionnelle, peut-être a tendance à minorer le rôle des affects, des émotions, dans le développement possible de l'activité. Et a fortiori, je dirais, quand on est dans une activité où la part d'interactivité, de coactivité, d'activité avec et sur autrui est aussi importante. Je pense que chez les débutants, on voit bien comment, à certains moments, c'est les affects qui sont des organisateurs de leur activité. Ce n'est pas les concepts pragmatiques, c'est des affects. Ou des organisateurs lorsque ces émotions deviennent envahissantes et qu'ils n'arrivent plus à en faire quelque chose dans la relation avec les élèves. Mais là, je pense qu'il y a un point qui serait un point de divergence, sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec Pierre Pastré, mais qui caractériserait peut-être l'approche qu'on essaie de développer, qui du coup, alors aujourd'hui, on met beaucoup en avant, et on en a parlé au cours de ces deux journées, les apports vygotskiens, la théorie de Vygotsky. On oublie peut-être que chez nous, en France, il y a un psychologue qui a déjà attiré l'attention de manière, à mon avis, tout à fait intéressante là-dessus, c'est Henri Vallon, qui a été très largement occulté par la référence omniprésente à Piaget, y compris dans la formation des psychologues. Je m'intéresse un peu à cette question puisque je suis responsable d'un cours de psycho en ergologie. Et on se rend compte que chez Vallon, il y a une conception très différente du développement. Alors lui, il s'intéressait à l'enfant, mais il y aurait probablement intérêt à revisiter l'approche vallonienne pour en tirer peut-être un modèle de développement de la compétence. Chez Vallon, il y a cette idée qu'il y a des alternances fonctionnelles entre des moments où ce qui est la priorité, l'enjeu fort, c'est de construire son rapport au réel. C'est ce qu'il appelle des phases centrifuges, c'est-à-dire pour l'enseignant, trouver des façons de faire avec la classe qui soient efficaces, efficientes, etc. Et lorsque on atteint un certain palier d'efficacité de ce point de vue-là, on repasse sur des phases que Vallon qualifiait de centripètes, c'est-à-dire qu'on se repose des questions sur le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on fait faire aux élèves. On est en train de travailler avec l'UCRIA sur un modèle de développement de l'activité des enseignants où on a deux cadres théoriques qui s'articulent et qui convergent sur cette idée, alors moi je le regarde là avec mon modèle, que c'est dans ces alternances entre recherche d'efficience d'un côté pour être efficace malgré tout et recherche de sens de l'autre que probablement se ferait un chemin l'efficacité professionnelle. Avec cette idée qu'on ne règle jamais les deux problèmes en même temps. Quand on est sur de la recherche d'efficience, et c'est ce qui saute à la figure des débutants lorsqu'ils mettent les pieds dans une classe, ils sont porteurs de conceptions, de représentations du métier, qui souvent explosent complètement dès les premières minutes d'interaction avec les élèves, et ce qui devient une préoccupation majeure, et qui du coup, autres organisateurs de l'activité, pas seulement les organisateurs des occupations, concept pragmatique, pour moi les préoccupations sont aussi des organisateurs de l'activité, cet organisateur de l'activité fait que ils sont contraints de trouver des solutions dans l'urgence pour rendre viables les situations de travail dans la classe. Et quand je dis situation de travail, c'est à la fois les situations des élèves, mais aussi leur propre travail avec les élèves. Donc, ils sont contraints à une recherche d'efficience. Je dirais au service d'une sorte d'efficacité malgré tout. Malgré tout, ça veut dire à la fois malgré les prescriptions, donc malgré ce qu'on leur a demandé de faire, mais aussi malgré ce qu'ils voudraient faire. Parce que souvent, et c'est quasiment une constante dans l'activité des débutants, ça les contraint, ça les conduit à tourner le dos à ce qu'ils voudraient faire. Donc à laisser provisoirement de côté la question du sens qu'ils attribuent à leur activité et du sens qu'ils attribuent, du sens qu'a l'activité qu'ils proposent aux élèves. Et on se rend compte que, quand on regarde ça dans la durée, comme on essaie de le faire avec Luc, sur plusieurs années, on se rend compte, alors quelquefois à l'échelle d'une année chez des T1, mais souvent c'est le passage T1, T2 qui réactive ça, donc titulaire première année, titulaire deuxième année, on se rend compte que quand ils ont un certain palier d'efficience, où ils ont trouvé des formes relativement économiques de travailler avec les élèves, et qui ont une certaine efficacité, bien sûr, à questionner, mais vous voyez que du coup, ça conduit à un autre regard sur l'efficacité. Concevoir les choses sous cet angle-là, c'est parler d'efficacité dynamique, c'est une efficacité dont les critères bougent au fil du développement de la compétence professionnelle. Donc l'efficacité, ça renvoie peut-être à des questions que soulevait, et là pas seulement pour les débutants, que soulevait François tout à l'heure quand elle disait, les anciens disent, ça a marché. Je pense qu'il y a derrière cette question de l'efficacité dynamique, c'est-à-dire une efficacité provisoire qui permet provisoirement de recycler des préoccupations dans des occupations plus efficaces, à la fois pour les élèves, mais aussi pour l'enseignant, et qui, une fois qu'elle a atteint un certain palier, amène l'enseignant à se reposer les questions du sens de ce qu'il fait et de ce qu'il fait faire aux élèves. Ce mouvement s'accompagnant, je ne vais pas avoir le temps de développer ça, s'accompagnant du fait que dans l'activité de l'enseignant et notamment du débutant, il y a des composantes qui bougent au fil de cette efficacité dynamique. Et notamment, parmi ces composantes, il y en a trois que j'ai repérées. La fonction de la tâche, qui est un autre organisateur du travail enseignant. La tâche est un organisateur du travail de l'enseignant, mais aussi des élèves. Elle peut aussi, d'ailleurs, au passage, être un désorganisateur, dans certains cas. Donc la fonction de la tâche, juste très rapidement là-dessus, on se rend compte que la tâche pour les enseignants débutants est instrumentalisée. On a parlé de cette distinction entre outils et instruments. Ils en font un instrument pour eux, moins au service de l'apprentissage des élèves qu'au service d'une mise au travail des élèves et d'une mise en ordre de la classe. Et vous voyez là aussi les malentendus en formation, c'est-à-dire que quand on les fait travailler sur les effets d'apprentissage générés par telle ou telle tâche, eux, ce qui les préoccupe, c'est en quoi telle ou telle tâche va être plus ou moins cadrante pour pouvoir maintenir la classe en vie, c'est-à-dire en ordre et en état de marche. Donc vous voyez comment là, cette idée d'efficacité dynamique conduit à se poser la question de comment la tâche va changer de fonction et à un moment donné va devenir un autre instrument dans l'activité de l'enseignant, c'est-à-dire cette fois, pas seulement un instrument de mise en ordre de la classe, mais un instrument qui va être vecteur d'apprentissage et qui, du coup, convoque la question de la place des contenus d'enseignement et des savoirs dans la tâche proposée. Luc a une formule, Luc Ria, il dit, au premier niveau, on a à peu près affaire à un stade où on est dans les savoirs fantômes. Parce qu'effectivement, la tâche, elle n'est pas porteuse dans le jeu de savoir, et c'est pas ça qui organise le débutant. La tâche, elle est là pour essayer de mettre la classe au travail, et donc de la maintenir en vie, c'est-à-dire en ordre, en état de marche. Dernier élément qui bouge dans l'activité de l'enseignant, c'est la place des élèves. Alors, ce qui ressort là aussi très fortement du rapprochement qu'on essaie d'opérer avec Luc Ria de nos travaux, et encore une fois dans des cadres théoriques différents, c'est que les élèves, dans un premier temps, c'est beaucoup plus des moyens d'apprendre le métier pour l'enseignant débutant que l'objet à proprement parler de leur activité. Donc là aussi, vous voyez le type de malentendu dans lequel on peut s'enfermer en formation. On peut considérer que, et c'est ce qui explique d'ailleurs que un certain nombre de jeunes enseignants, Isabelle Vinatier disait ce matin, on s'est aperçu, oui, je crois que c'est Isabelle ou Dominique qui disait que ceux qui ont un parcours, CMEA, etc., se rendent compte qu'ils ont des élèves en face d'eux et on porte attention à l'activité des élèves. Mais pour ce faire, ils puisent dans une expérience déjà constituée, partiellement constituée, puisque l'animation, c'est pas l'enseignement, mais il y a probablement une conversion de cette expérience-là par rapport à l'enseignement. Mais pour les autres, en fait, s'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont les élèves en face d'eux, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus préoccupés par leur propre apprentissage du métier que par l'apprentissage des élèves. Donc là aussi, comment recycler, comment les aider à recycler cette préoccupation pour la rendre, pour la convertir dans des occupations plus efficaces, à la fois du point de vue des élèves, mais aussi de leur propre point de vue. Et là, c'est un aspect qui, à mon avis, ouvre aussi une discussion possible par rapport aux différents apports, notamment par rapport à l'intervention de... C'est Gleiss qu'elle s'appelle ce matin. On voit bien comment, quand elle se réfère à l'approche marxienne, ce qu'elle a qualifié d'approche marxienne du travail, elle reste complètement au milieu du guet. Parce que le travail, elle a oublié de dire que chez Marx, en transformant la nature, le travailleur se transforme lui-même. Et je pense que là, effectivement, si on regarde qu'un aspect du travail qui est l'activité de transformation du réel, qui est effectivement un réel particulier pour l'enseignant, c'est pas de la matière, c'est pas une chose, c'est... Bon, elle a parlé de processus psychique, on pourrait en discuter, elle se réfère à Vygotsky. Mais ce qu'elle oublie, c'est les effets en retour de ce travail-là sur l'enseignant. Et comment l'enseignant passe son temps à travers les compromis qu'il opère dans son activité à gérer les effets qu'il cherche à produire sur les élèves, mais aussi les effets en retour que l'activité et l'interactivité, la coactivité avec les élèves produisent sur lui-même. C'est ce qui fait que dans les premiers travaux que Roland Guagou a conduits avec des enseignants de SECPA confrontés à des élèves en grande difficulté de lecture, dans les autoconfs, il y a plein de moments où les enseignants disent en gros, je cite de mémoire et de manière un peu brute de décoffrage, là, je sais que tu vas me dire ce que je fais sur le plan de la didactique de la lecture, c'est de la merde. Mais dans la situation où je suis avec ces élèves-là, c'est à peu près la seule façon de faire que j'ai trouvé pour faire en sorte que ça dégénère pas. Donc, et comment les travaux de Roland Guagou, par exemple, conduisent à questionner fortement l'idée que le seul organisateur du travail enseignant serait la pertinence didactique. Ce qui est quand même, il me semble, le chemin emprunté par certains collègues didacticiens, et il me semble que ce que présentait Gleiss, le risque de ça, en dehors de l'intérêt que présente ce travail-là, de se centrer sur finalement le devenir des objets de savoir depuis les objets enseignés jusqu'aux objets enseignés, le risque qu'on court, il me semble, et là je pense qu'elle se réfère à Vygotsky, on pourrait là aussi se référer à Vygotsky, c'est de savoir si cette unité d'analyse-là, c'est-à-dire focalisée sur, uniquement sur l'objet de savoir, ne risque pas d'empêcher de regarder la complexité de l'activité. Vygotsky avait une formule sur les unités d'analyse en disant la molécule d'eau, par exemple, il faut s'intéresser à la molécule d'eau parce que si on s'intéresse aux atomes, à l'oxygène, à l'hydrogène, on ne pourra jamais comprendre pourquoi l'eau éteint le feu alors que l'oxygène devrait l'alimenter. Et là, on a quelque chose de même nature dans les organisateurs. Je pense qu'il faut pouvoir approcher d'organisateurs qui, tant bien que mal, essaient de rendre compte de la totalité dynamique de l'activité et pas seulement de certains aspects de l'activité. Sinon, on a beaucoup de mal à recoller les morceaux après. Une fois qu'on a, comme dit Vygotsky, démembré ce qui est une totalité dans l'activité, ben on s'efforce de réarticuler avec des regards croisés, etc. Beaucoup de collègues font ça, mais on n'y arrive jamais véritablement parce qu'on s'est donné au départ une unité d'analyse qui probablement interdit d'accéder à l'épaisseur, la profondeur de l'activité. Voilà, donc là, c'est aussi des points de discussion. Je crois que j'ai largement dépassé. Je vais quand même juste poursuivre mon petit parcours. Dans l'atelier de Marie-Françoise Barotte, pour ceux qui y ont assisté, j'ai relevé quelque chose qui me paraissait tout à fait intéressant. Donc, en gros, elle montrait que il y avait une sorte de territorialisation de l'autorité du chef d'établissement, je le dis très vite, donc que le territoire jouait un rôle. Alors on pourrait discuter si c'était un organisateur, un concept pragmatique, on ne s'est pas privé d'en discuter. Mais néanmoins, ce qui me paraît intéressant dans ce qu'elle a pointé et qu'il a à voir avec la façon dont on se donne les moyens d'approcher les organisateurs du travail de l'enseignant, c'est que ce qui apparaissait comme de l'ordre d'un détail, y compris pour le chef d'établissement concerné, s'est révélé sans doute jouer un rôle tout à fait central dans l'activité. Ça me faisait penser, j'ai noté en marge là, en écoutant ce que disait Marie-Françoise Barotte, à la formule qu'utilisait un collègue ergonome qui vient de décéder il y a quelques jours, Jacques Durafour, qui disait « voir de près, ça permet de voir loin ». Et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Je pense que jusqu'à présent, on n'a pas suffisamment pris le temps de regarder de près le travail d'enseignant, en considérant qu'on n'a rien à apprendre ou à comprendre de ce travail-là, parce qu'on a déjà tout compris et qu'on a déjà les réponses dans les outils théoriques existants. Donc là, je pense qu'il y a une posture tout à fait intéressante qui me semble partagée là par les différents intervenants et qui n'est pas seulement une posture de chercheur, qui pourrait organiser aussi la posture d'un formateur qui serait sensible au fait que le travail, c'est pas simplement la mise en œuvre de savoir déjà là, c'est aussi, comme dit Schwartz, un lieu de production de savoir investi, qui sont en attente de reconnaissance conceptuelle. Et qui sont quelquefois en avance sur les théorisations qu'on peut en produire. Donc là, il me semble qu'il y a, et même toujours en avance. Même si les théorisations sont aussi d'une autre manière en avance, c'est ce que Schwartz appelle la double anticipation. Mais sauf que on oublie cette double anticipation. On oublie souvent que l'expérience a toujours une longueur d'avance sur ce qu'on peut en théoriser. Je retiendrai aussi de la mise en perspective qu'a fait Philippe Astier hier. Cette idée que du coup, et ça me paraît, c'est apparu aussi dans l'atelier de Marie-Françoise Barotte, parce qu'elle disait le territoire organise l'activité, mais on peut penser aussi que l'activité du chef d'établissement organise le territoire. Donc cette idée que l'activité est organisée, mais elle est aussi organisante. Ça, je pense que c'est une idée forte, sur laquelle, à mon avis, il faut continuer à travailler, sinon on prend le risque effectivement de déléguer à des organisateurs de l'activité, fût-ce des concepts pragmatiques, quelque chose qui excède forcément le concept à un moment donné, et même s'il s'agit de concepts pragmatiques. Schwartz a l'habitude de dire l'activité c'est une machine à tordre les concepts. Donc je crains que si on en reste, et même si on élargit la notion de conceptualisation dans l'action, comme le fait la didactique professionnelle, si on laisse de côté le fait que dans l'activité on passe son temps à faire des compromis qui transgressent les frontières entre les émotions, l'action, les concepts, les affects, etc., on risque de rationaliser a posteriori des choses qui, dans l'activité, reposent sur d'autres ressorts. Et notamment, l'un des ressorts, il me semble, qui est un des ressorts du développement de l'activité, c'est justement les insatisfactions que produit ce qu'on fait. Quand Guilhem disait, finalement, la subjectivité, c'est peut-être uniquement l'insatisfaction, donc il y a une sorte de motricité de l'insatisfaction, mais il ajoutait, mais c'est peut-être là la vie elle-même. Autrement dit, On peut probablement s'intéresser, et il faut le faire, à ce qu'organisent les occupations, à ce qu'organise le vécu, mais il ne faut pas oublier que le vécu est vivant. Claude a l'habitude de dire, dans ce qu'il a de vivant, le vécu est à revivre. Autrement dit, se centrer sur le vécu, au détriment du fait que le vécu est pris dans une histoire, et essayer de regarder ce qui a organisé ce vécu à un moment donné, c'est peut-être justement perdre de vue le fait que l'activité a une dimension, ça a été dit par plusieurs intervenants, une dimension temporelle, subjective, collective, etc. Et historique, je rajouterai. Donc là aussi, ça plaide en faveur, finalement, d'approches développementales, qui, au-delà du fonctionnement, on peut s'intéresser aux organisateurs du fonctionnement, mais une des questions majeures aujourd'hui, à la fois en termes de recherche, mais aussi de formation, c'est comment permettre à des fonctionnements de se mettre au service d'autres fonctionnements. Et ça, c'est la question du développement. Comment un fonctionnement de débutant qui consiste, pour faire vite, à un premier niveau, à surcompenser, par exemple, le cadre qu'il va mettre en place, c'est-à-dire à aller très loin dans des effets d'autorité, voire d'autoritarisme, pour essayer de faire en sorte que ça tienne debout, pour, comme je dis, limiter au maximum les inattendus en multipliant les attendus à l'égard des élèves. Comment ce fonctionnement-là, il peut progressivement être mis au compte d'un autre type de fonctionnement où les élèves vont avoir une autre place. Là, il me semble qu'il y a vraiment des questions fortes qui montrent que ces questions de fonctionnement versus développement, c'est de mon point de vue pas que des questions de chercheurs, même si elles sont travaillées du point de vue de la recherche, elles sont au cœur de l'activité de formation. Je crois qu'il est temps que j'arrête, puisqu'il reste 10 minutes, donc j'avais prévu de développer, de montrer quelques diapos, mais j'aurais pas le temps de le faire. J'essaie de voir s'il y a des éléments. Oui, je voulais finir en reprenant de manière un peu synthétique sur cette idée que quand on regarde l'activité de près, on se rend compte que le travail de l'enseignant, et c'est tout particulièrement visible dans le travail des enseignants débutants, il est constitué de dilemmes, de nœuds de problèmes, disait ce matin Dominique Bucheton. Et la caractéristique de ces dilemmes, c'est pas pour rien d'ailleurs que Freud parlait de métier impossible, et qu'Anne-Marie Chartier a repris, si j'ai bonne mémoire, un texte là-dessus qui s'intitule Ouverture, qui reprend cette idée d'impossibilité, qui est pas seulement une impossibilité quantitative liée aux prescriptions à l'accroissement, qui est aussi une impossibilité qualitative liée au fait qu'il y a un certain nombre de dilemmes dans lesquels on peut pas trancher unilatéralement. D'où d'ailleurs la difficulté à laquelle on se trouve confronté aujourd'hui. Parce que l'affaiblissement du métier, c'est-à-dire de ressources collectives, de façons de penser et de faire, qui ont existé antérieurement, parce qu'on oublie trop que les écoles normales avaient pour fonction, justement, de préciser, de fixer des normes professionnelles, qui d'ailleurs ne manquaient pas d'être renormalisées. Mais on ne peut pas renormaliser, c'est-à-dire retravailler ces normes dans l'activité, on ne peut pas renormaliser s'il n'y a pas de normes antécédentes. Là, c'est aussi un point un peu de divergence avec notamment ce qu'a dit Isabelle ce matin, parce que elle m'a donné l'impression de diaboliser un peu les normes, quoi. Or, on a besoin de normes pour travailler. Un des problèmes peut-être aujourd'hui en matière de prescription du travail enseignant, c'est qu'on ne sait plus très bien où sont les normes. Françoise le disait, hein, dans les prescriptions elles-mêmes, on a une perte de lisibilité de ce qu'on attend de l'école. Il faut à la fois développer des compétences, permettre des apprentissages, favoriser l'employabilité, permettre à une fraction de la population scolaire qui en serait dépourvue d'accéder à la citoyenneté, etc. On voit bien comment tout ça se percute et comment on a beaucoup de mal à faire tenir ces finalités disparates ensemble. Hein. Donc une des questions, je pense, qui est tout à fait importante là aussi en matière de formation, c'est qu'il serait désastreux, c'est le point de vue de Schwartz, mais je le partage, d'abandonner cette question des normes au motif que les normes fonctionne sur le mode d'une normativité. Et la référence, je vais boucler là-dessus, la référence à Canguilhem permet justement de repenser la fonction des normes. On a besoin de normes pour enseigner et pour travailler. On a besoin d'y voir clair sur ce que l'institution attend. Mais en même temps, il faut accepter que ces normes soient prises systématiquement dans un processus de renormalisation, c'est-à-dire de retravail des normes au contact des inattendus et des épreuves, pour reprendre l'expression que j'utilisais, des épreuves auxquelles l'activité confronte. Et il y a une dialectique entre normes et renormalisation. Et là, on a un outil, un couple qui permet peut-être de penser d'une autre manière la formation, à la fois dans la nécessité de former les enseignants à répondre aux prescriptions, mais peut-être en entendant répondre au sens fort. C'est-à-dire pas seulement les exécuter, mais entrer en dialogue avec les prescriptions et les renormaliser pour pouvoir faire ce qu'on leur demande de faire. Et vous voyez à quel point cette renormalisation ne peut pas être portée par les seuls individus. On a besoin du collectif, on a besoin d'une instance de digestion des normes pour pouvoir alimenter ce travail de renormalisation. Ou plutôt, quand on est tout seul à le faire, ben, on n'est pas loin là de situations qui caractérisent pas mal de situations de travail enseignant aujourd'hui, où justement la santé professionnelle est mise en cause. Alors quand je parle de santé, je finirai là-dessus. Bien sûr, c'est pas seulement l'absence de maladie, Françoise l'a évoqué, c'est plutôt des situations dans lesquelles on a une perte du pouvoir d'agir, dans lesquelles on a un affaiblissement de l'initiative, de la réactivité, dans lesquelles finalement on a le sentiment que les choses, et en l'occurrence c'est des élèves dans le cas de l'enseignant, je reprends une formule qu'utilise Canguilhem, se mettent à avoir des rapports indépendants de notre activité. Et j'ai en tête plein d'images, chacun de vous doit en avoir, d'enseignants débutants qui ont l'impression que les choses, c'est-à-dire les élèves encore une fois en l'occurrence, se mettent à avoir dans leur classe des rapports complètement indépendants de leur activité. Et quand on est confronté à cette situation, ben on est en situation d'impuissance apprise, comme disaient les psychologues. Parce qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, on ne pourra plus agir sur le réel. Et ça, ça a des effets particulièrement délétères sur le développement de l'activité et sur la santé au sens large. Voilà, donc j'ai pas vraiment tenu ma... honoré ma mission jusqu'au bout. J'avais d'autres éléments, mais dans le temps qui m'était imparti, j'ai essayé de faire les compromis qui me paraissaient les plus efficaces.